Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Je suis Paul Citron, urbaniste, coproducteur de l'émission avec Dominique Alba, architecte et urbaniste. Bonjour Dominique.
Bonjour Paul. En 1995, la ville de Chicago est frappée par une canicule meurtrière. Deux quartiers voisins, Auburn Gresham et Englewood, présentent des taux de mortalité radicalement différents malgré leur démographie similaire. Pour en connaître les causes, le sociologue américain Eric Klinenberg s'est intéressé à l'analyse de l'infrastructure sociale présente au sein de ces deux quartiers, avec un ouvrage qui aura fait référence, Chicago Canicule 95, publié par l'University Chicago Press 2002. Dans Palace for the People, Klinenberg définit l'infrastructure sociale comme les espaces physiques et les organisations qui affectent la manière dont les gens interagissent. Parmi ces espaces physiques, les institutions publiques comme les bibliothèques, les écoles, les aires de jeu, les parcs, les terrains de sport, les piscines, mais aussi les trottoirs, les cours d'école, les espaces verts. L'infrastructure sociale joue un rôle clé dans la capacité des quartiers à faire preuve de résilience face aux crises sanitaires, mais aussi climatiques ou économiques, c'est-à-dire à absorber le choc et à s'en relever. Elle est intimement liée aux questions contemporaines d'isolation sociale, de criminalité, d'éducation ou encore de santé. Lorsqu'elle est solide, l'infrastructure sociale encourage le contact, le support mutuel et la collaboration entre amis et voisins. Quand elle est dégradée, elle inhibe l'activité sociale, laissant les familles et les individus à eux-mêmes. Ce texte est extrait du site citylab.com, signé par Anaïs.
Alors, pour aborder donc aujourd'hui cette question de comment est-ce que la ville, le tissu urbain et la manière dont il s'organise oriente finalement le lien social, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Lily Monson, secrétaire générale de Ville Vivante, urbaniste. Bonjour Lily.
Bonjour.
Et vous serez accompagnée aujourd'hui de Nicolas Barre, notre deuxième invité. Nicolas, entrepreneur, cofondateur de Make Ici et également jeune œnologue. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, on voudrait que vous puissiez un peu présenter ce que vous défendez dans votre activité professionnelle. Donc tout d'abord, Lily, qu'est-ce qu'une ville vivante ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est nombreux à se poser la question. Donc, ville vivante, pour moi, une ville vivante, c'est une ville qui, en fait, est assez dense pour continuer à exister, promouvoir et autoriser des services du quotidien. On pense à la boulangerie, à une pharmacie, enfin en tout cas à tout ce dont on a besoin pour vivre tous les jours. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte, il y a de plus en plus de villes, notamment en France, qui aujourd'hui n'ont pas la densité suffisante pour maintenir de tels services. Et donc c'est la question, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on fait pour que on maintienne des cœurs de ville qui soient vivants et qui n'aient pas une fuite des services.
Et alors, donc, Ville Vivante, c'est la société pour laquelle vous travaillez. Comment ça se présente ? Comment vous faites pour parvenir à renouveler un peu ces tissus qui ont du mal à maintenir les aménités urbaines ?
Et bien nous, on est centré du coup sur la question de la production de logement et la production de logement en autopromotion. C'est-à-dire que c'est les habitants eux-mêmes qui, sur leur propre terrain, portent des projets de construction de logements, que ce soit en surélévation, en extension, et voire même en reconfiguration seulement de l'existant, notamment pour pérenniser la fonction de logement, parce qu'on voit qu'il y a énormément de vacances, qui est aussi juste dû au fait que en fait, le logement, c'est quand même un flux et pas simplement un stock, et qu'on doit adapter en permanence à l'évolution des besoins. Et donc nous, on est spécialistes de la densification douce, donc on travaille avec les habitants, avec les collectivités sur des opérations où on a des objectifs de création de logements qui sont donc beaucoup moins chers et sur du foncier qui est déjà, on va dire, celui des habitants eux-mêmes et donc uniquement évidemment dans les tissus bâtis.
Donc on pourrait parler en quelque sorte d'une densification artisanale dans le sens où vous venez rajouter des bâtiments ici et là au sein notamment des quartiers pavillonnaires ?
Complètement, c'est totalement du sur-mesure. En gros, notre idée, c'est vraiment de travailler un peu à la façon dont on a fait les villages de France. C'est-à-dire accepter un temps un peu plus long, accepter du sur-mesure, et en réalité, on voit que ça a produit les plus belles villes du monde. C'est-à-dire que en fait, c'est tout bête, mais quand on construit pour soi ou pour son voisin, et en fait on fait les choses très bien quoi, globalement la plupart du temps, surtout si en plus on est bien accompagné par des professionnels. Évidemment l'idée c'est pas simplement de tout autoriser, mais au contraire d'accompagner les volontés individuelles. Voilà.
Peut-être quand même une dernière petite question, Lily, avant de passer à Nicolas. Pour faire ça, il faut quand même une infrastructure sociale. Elles ne sont pas fréquentes dans les villes. La preuve en est l'extrait de l'ouvrage que j'ai cité. Et par ailleurs, vous dites que le logement est un flux et pas un stock, ce qui est très contre-intuitif et qui correspond absolument pas à la façon dont le logement est géré en France. Et troisième point, est-ce que c'est une niche? Comment vous massifiez?
Trois très bonnes questions.
Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes, il y a du temps. Il y a du temps. On passera à Nicolas qui va sans doute dire pas mal
tout
de choses.
Tout à fait. Non, absolument, je pense que c'est... De toute façon, c'est un processus qui va avec... des politiques publiques qui l'accompagnent évidemment, et d'ailleurs l'ensemble de nos opérations se font main dans la main avec des collectivités pionnières hein, qui travaillent avec nous, donc je pense à Lorient, Morlaix, Périgueux, enfin Scott des Vosges, on a vraiment beaucoup de réels partenaires qui sont engagés à nos côtés et qui créent de l'infrastructure et sociale et simplement de l'infrastructure, c'est-à-dire des équipements qui accompagnent, on va dire, le processus d'identification. Et c'est là où on a un potentiel, je pense, quand même de massification. Et nous, notre objectif, ça n'a jamais été de construire l'ensemble de la France en autopromotion. Ce serait évidemment absurde, d'autant qu'il y a quand même des endroits dans lesquels on a besoin de projets urbains avec de la promotion, du collectif, etc. Mais c'est plutôt que je pense que ça a toujours existé et que il faut mieux l'encadrer. On le voit d'ailleurs dans le Grand Paris, les problématiques de logement indigne, etc. Et qu'il faut aussi mieux l'autoriser, c'est-à-dire que dans certains territoires, il y a des initiatives individuelles qui pourraient permettre de répondre à une partie de la crise du logement et qu'aujourd'hui, c'est complètement cadenassé. Aussi parce que les politiques publiques françaises ont du mal à faire avec les habitants, je pense, à certains endroits.
Merci, on va y revenir. Alors Nicolas, vous défendez la ville productive, ce qui est une chose intéressante. Tout le monde cherche à mettre des adjectifs sur la ville, donc là nous en avons deux que nous proposerons, je dirais, au débat public. Qu'est-ce que ça veut dire la ville productive ?
La ville productive, pour nous, c'est une ville où il y a des humains qui produisent, avec des machines, et au plus proche de ceux qui peuvent acheter leur création. Donc c'est plutôt une ville artisanale, avec des savoir-faire de la main, et comme on est en France, en fait, des savoir-faire qui sont en fait qui font la gloire, je pourrais dire, de la France au niveau mondial.
D'où l'idée des makers.
Par exemple, les métiers d'art. Après, les métiers d'art, c'est peu connu, mais en gros...
Qu'est-ce que c'est un métier d'art ?
Métier d'art, en fait, c'est un métier qui... On appelle ça métier d'art parce qu'en fait, il y a un savoir-faire d'excellence, en fait. Et donc, les plus connus, on va dire, c'est menuisier, tapissier, ébéniste. Ébéniste, c'est les professionnels, les artisans du bois qui fabriquent les meubles. Et ces métiers-là, ils ne sont pas délocalisables, en fait.
Mais on a l'impression qu'ils ont disparu ces dernières décennies.
En fait, ils n'ont jamais disparu, ils ont toujours été là, c'est juste qu'ils n'étaient pas dans les médias, mais il y en a toujours, il y a des milliers. Il y a une étude récente qui est sortie là, il y a un mois, qui démontre que le secteur des métiers d'art pèse 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus que l'industrie pharmaceutique. Donc ils n'ont jamais disparu, ils n'étaient juste pas dans les médias, ils sont revenus dans les médias parce que beaucoup de Français sont en quête de sens. Et quand on leur demande dans quel métier ils veulent se reconvertir, c'est les métiers qui ressortent en premier.
Ils n'étaient pas dans les médias, mais moi j'ai l'impression qu'ils n'étaient plus en ville non plus. C'est-à-dire que quand on entend des vieux Parisiens parler des quartiers de faubourg, ils disaient auparavant, voilà, il y avait plein d'artisans dans les cours du quartier de la Bastille. Aujourd'hui, c'est des cafés où on peut boire du matcha, ce qui est très bien aussi. Mais j'avais l'impression que Make Ici essayait d'adresser aussi ce problème de comment maintenir un tissu artisanal en ville. C'est le cas?
Oui, t'as raison. Ils ont disparu des rez-de-chaussée, en fait, et des rues, notamment les centres-villes des grandes villes, parce que à cause de l'accès au foncier, en fait, hein, les artisans, ils ont un triple problème, c'est de pouvoir acheter ou payer un loyer de rez-de-chaussée dans une ville. Donc forcément, à Paris, c'est de plus en plus compliqué. À Lyon, à Marseille, c'est un peu moins, mais pareil. Deux, c'est l'énergie. Bon, là, ça s'est un peu calmé, mais depuis 2 ans, ça avait, c'était surréaliste, les prix. Et trois, c'est les équipements. Et un tapissier, équipement, c'est à peu près 10 000 euros, on va dire. Alors qu'un menuisier, il lui faut 50 000 à 60 000. Et du
les
coup,
équipements, c'est les machines pour
voilà,
couper le bois, tisser les tapis.
Oui, c'est-à-dire qu'un menuisier, il lui faut, voilà, s'il veut un atelier, de, quoi, s'il veut, s'il est tout seul, il lui faut au moins 100 mètres carrés. Donc 100 mètres carrés en rez-de-chaussée dans Paris, voilà, en plein centre-ville.
Alors comment on résout cette question?
Bah, la question, là, on la résout en mutualisant, en fait. En faisant trois choses, c'est en se disant, voilà, pour pouvoir se rémunérer, il faut baisser ses charges. Et donc, pour baisser ses charges, il faut avoir accès à des ateliers, des machines, des équipements, de l'énergie, en fait. Donc, du coup, on a créé le coworking pour artisans, on va dire ça comme ça, pour simplifier.
D'accord.
Donc, des lieux de 2000 m² avec les équipements, les ateliers, les racks pour ranger, pour stocker, Internet, du bon café. Et du coup, ils payent, comme dans un espace de coworking, en fait, ils payent au poste un abonnement, et ce qui fait que ça leur réduit leur charge par 4 ou 5.
Et alors, est-ce que vous arrivez à voir comment est-ce que le fait d'avoir des lieux productifs en ville, donc par exemple, je crois qu'un des premiers était à Montreuil, qu'est-ce que ça a comme influence sur le quartier, sur comment est-ce qu'on fait de l'urbanisme à partir de ces lieux qui accueillent justement tout ce tissu de métiers qui sont aussi des gens justement qui font la ville.
Alors on a des critères d'impact en fait qu'on suit. On va dire on a ouvert en 2012 le premier à Montreuil, mais depuis 2017 en fait on a des financeurs à impact, donc qui nous ont amené des critères à suivre. Le premier qu'on suit, c'est le chiffre d'affaires. En fait, nous le but de tout ça, hein, c'est de permettre à aux artisans de notre communauté de se payer, de se rémunérer le mieux possible. Pour ça, il faut du chiffre d'affaires, et donc du coup on suit le chiffre d'affaires qu'ils génèrent, et forcément quand ils génèrent du chiffre d'affaires, bah, ça amène de l'économie à tout le quartier. Donc par exemple ici Montreuil qui fait 1800 m², qui a 70, une communauté de 70 artisans, entrepreneurs et autres, ils génèrent 7 à 8 millions de chiffre d'affaires par an, entre la structure plus le chiffre d'affaires de tous les artisans sur place. En fait, après on a deux types d'artisans, hein. Il y en a, pour un exemple, on a eu une structure artisanale qui faisait 900 000 euros de chiffre d'affaires dans nos locaux quand même. Du coup, ils consomment, ils mangent au resto, ils vont au marché, ils consomment dans les restaurants, ils achètent autour. Et on a à peu près 10 à 15% de chaque année de nos artisans qui s'installent à Montreuil. Parce qu'ils habitent à Paris, dans un studio, et ils s'installent à Montreuil. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais du coup, ça amène des nouveaux habitants aussi.
Et comment vous avez défini le type de personnes qui pouvaient se réunir dans ce qu'on appelle maintenant les makers? Comment vous avez choisi, en fin de compte, l'armature de tout ça? Le bâtiment, y compris les métiers d'art, c'est la moitié des entreprises artisanales de l'Île-de-France. Donc c'est effectivement quelque chose de très, très important. Les makers, ce n'est pas que le bâtiment, loin de là, c'est les métiers d'art, mais on a aussi cette capacité des personnes à réparer leur logement, à investir dans de la chose, je dirais, dans du confort de la vie quotidienne. Comment vous avez choisi les gens? Comment ça évolue, ce choix? Et comment vous vous situez un peu par rapport à ce qu'on pourrait dire globalement le BTP, quoi?
En fait, habitant Montreuil, en fait, on était tous les jours à rencontrer des artisans d'art, quoi, des professionnels, des industries créatives, que ce soit artisans d'art, artistes et autres. Et on a commencé par créer une communauté en fait qui valorisait le Made in Montreuil. Et de tout ça, on s'est aperçu qu'il leur manquait l'accès à des machines, à des financements et à un réseau professionnel. Donc en fait, le thème aussi, c'était un thème qui nous, quand on a créé, nous, notre activité, notre entreprise, on voulait quelque chose qui nous passionne. Donc on est assez passionnés avec ma femme d'artisanat d'art, d'art et tout ce qui va avec. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose qui les aide, eux. Et après, donc on a dit, il faut que ça soit le cœur, ça soit l'artisanat d'art. Parce que aussi pour que ça représente un peu le fabriqué en France une dévalorisation de ce que la France sait faire et sait vendre dans le reste du monde, parce qu'il y a une dimension internationale aussi. Après, on s'est dit, les artisans d'art, ils ont, pour développer leur activité, créer du chiffre d'affaires, ils ont besoin d'un écosystème qui intègre aussi des architectes, des décorateurs, des archives d'intérieur, des scénographes. Donc il faut absolument qu'il y en ait dans nos lieux, dans nos communautés. Et en plus, comme on est au XXIe siècle, il faut des pros de la fabrication numérique. Bon, après, on a imaginé une programmation qui permet d'avoir ces communautés. Et au final, on a toujours, dans tous nos lieux, il y a 2/3 d'artisans d'art, 1/3 de pros de la conception et de la fabrication numérique.
On a l'impression que ça donne justement, que ça va produire justement une belle ville. Ce que ça, à la fois le fait d'amener de la production en ville, à la fois le fait d'amener d'autres types de bâtis au sein du tissu existant. Mais on va marquer une première pause musicale en écoutant Wouldn't It Be Nice des Beach Boys. Et on se retrouve juste après sur Cause Commune.
Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Retour sur Cause Commune, vous êtes toujours dans Ainsi va la ville, nous sommes toujours avec, en compagnie de Dominique Alba, Lily Munson et Nicolas Barre.
Avant de passer à des sujets durs qui sont comment on mobilise du foncier ou comment on mobilise les politiques publiques, on va un peu parler quand même de choses peut-être qui nous permettent d'avancer, qui sont ce que vous êtes en train de faire. Donc les propositions que vous portez, elles sont à la fois innovantes, si on regarde les 30 dernières années, et puis elles sont presque banales si on regarde les derniers siècles, où en fin de compte, cet artisanat ou la manière d'habiter, c'était des choses à peu près quotidiennes. On a le sentiment, quand on vous écoute tous les deux, que tout d'un coup, on aurait une solution pour justement éviter Chicago en 1995, avec un taux de mortalité terrible dans un quartier et un taux de mortalité inexistant dans un autre, alors que c'est les mêmes habitats, les mêmes organisations, et que la seule différence, c'est qu'en fait, dans un cas, les gens ne se parlaient pas, et dans l'autre, ils se parlent. Donc j'aimerais bien, peut-être Lily et puis Nicolas, que vous nous parliez de ça. C'est un petit peu aller au-delà peut-être de ce que vous êtes en train de faire, mais il y a forcément cette dimension-là quand vous agissez l'un et l'autre dans vos activités et dans ce que vous avez choisi de développer.
Ben peut-être effectivement pour commencer, moi je pense qu'effectivement la question du logement et de l'emploi sont intimement liées. D'ailleurs, c'est ce que la ville permet, c'était de rapprocher quand même le travail de là où on habite. C'est vraiment le sens même de l'infrastructure urbaine. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue, ce qui est très aliénant pour les gens. Et on le voit notamment, effectivement, dans nos travaux, on intervient beaucoup dans les tissus pavillonnaires qui sont autour des villes moyennes ou des plus grandes métropoles françaises. Et le fait que, en fait, on soit dans des configurations avec des parcelles qui sont très grandes, dans lesquelles, effectivement, on n'a pas un entremêlement des activités économiques ou juste activités tout court, fait qu'en fait, on se retrouve dans des espaces qui sont assez dysfonctionnels et qui, par ailleurs, sont très consommateurs de foncier. Alors que, dès lors qu'on arrive à commencer à amener un peu de mixité et à faire ce que les gens, en fait, soient des acteurs, soient des, et pas simplement des acteurs au sens de, parce qu'on a vu là se diffuser toute la concertation, les, et c'est une très bonne chose, mais pas simplement pour leur demander leur avis, mais en fait qu'ils deviennent des acteurs vraiment opérationnels de la construction de leur cadre bâti, et ben là tout de suite tous les phénomènes justement aussi assez classiques qui se sont renforcés avec des arguments écologistes ces dernières années de NIMBY, donc not in my backyard, c'est-à-dire de résistance à toute évolution du cadre de vie. D'ailleurs, voilà, en n'ayant aucune considération pour le fait qu'en réalité il y a une crise du logement, que les jeunes ne peuvent pas trouver de quoi se loger. En fait, dès lors que on devient acteur de son cadre de vie, ce type de résistance recule. Et je pense que ça, c'est quand même un symptôme important.
Nicolas Barre, est-ce que c'est en remettant les artisans au centre de la ville qu'on parvient à réinvestir un peu les citoyens et les citadins dans la production de l'espace urbain ?
Bah en tout cas, les lieux comme les nôtres, en fait, ramènent une communauté d'artisans. Mais on va dire permet surtout à des habitants de se changer de voie et de se reconvertir dans un nouveau métier. Parce que 2/3 de nos communautés en fait sont des reconvertis. Mais donc c'est à la fois un lieu où il y a de la production professionnelle, mais on est aussi centre de formation. Et donc c'est quand même des lieux qui ne sont pas que destinés à des professionnels en fait, qui créent du lien avec la ville, mais à travers l'emploi et la montée en compétences. Puis aussi on a avec les collectivités, on y reviendra peut-être, mais on crée des programmes qui permettent aussi à des jeunes de retrouver une voie, de leur donner confiance. Après, la problématique, c'est que l'artisanat, ça amène des livraisons, du chargement, du déchargement, même si c'est pas des 32 tonnes, pour pouvoir remettre un lieu comme ça en ville, il faut pouvoir gérer ces problèmes-là. Donc ça peut pas se faire au centre de Paris, ça peut pas se faire dans les hypercentres en fait. Ça peut se faire.
Les hypercentres n'ont pas forcément besoin.
Voilà. Mais donc ça se fait en périphérie, en région parisienne, ça se fait à Montreuil, à Vitry. On travaille avec d'autres villes région parisienne. Je rêve d'en faire un en plein Paris. On a un concept qu'on pourra faire. Parce qu'au final, il y a une des problématiques, c'est qu'à un moment, c'est que ces artisans-là doivent vivre, donc il faut qu'ils aient des clients.
Absolument.
Et qu'on a une partie, qui travaille la plupart nous travaillent dans la décoration, l'aménagement intérieur. Donc beaucoup ont les menuisiers, les ébénistes ont comme clients des archis. Et ça, c'est du sur-mesure, elles n'ont pas besoin d'avoir une vitrine sur rue. Par contre, ceux ou celles qui sont dans la tapisserie, qui sont dans la céramique, la bijouterie et autres, là, qui créent des collections, il leur faut un lieu physique. Alors, à Montreuil, boulevard Chanzy ou à Vitry-sur-Seine, aux Ardoines, c'est pas possible.
C'est plus difficile. C'était le rôle du viaduc des Arts à la Bastille. Voilà. On pourra peut-être en reparler. Et c'était la question que je voulais vous poser. Il faut bien un modèle économique pour agir. Parce que, Lily, vous disiez comment vous agissez pour que les gens soient des acteurs. Mais qui vous finance ?
Alors nous, aujourd'hui, on travaille, ça dépend des zones, on va dire. C'est-à-dire que dans certaines zones qui sont très tendues dans le territoire, là, la valeur du foncier est telle qu'en réalité, on travaille directement avec des particuliers qui souhaitent faire évoluer leur terrain et puis ça fonctionne. Sinon, la plupart du temps, je dirais, on est vraiment en lien avec les collectivités et donc c'est les collectivités qui investissent, qui financent notre service pour qu'on produise du logement dans le tissu urbain déjà existant, qui corresponde aux besoins et aux envies de leurs habitants, et en les embarquant avec nous. Voilà, mais ce qui est certain, c'est qu'on est sur... déjà, on est face à une crise de l'immobilier, une crise économique qui est quand même vraiment très aiguë, et puis qui, je pense, est affectée par ce que vous disiez que vous parlez des menuisiers et de tous les artisans que vous accompagnez. On le voit quand même, le bâtiment, pendant des siècles et des siècles, Dominique, tu parlais du temps long, c'était des artisans d'art qui signaient leur bâtiment, qui faisaient chacun une couche de... comme au cinéma presque, comme un générique de cinéma. Et c'est vrai qu'en réalité, en France, on a eu un tel rouleau compresseur du béton et des grandes entreprises du BTP qu'on a presque un peu oublié cette spécificité-là. Alors qu'en réalité, il y a énormément, énormément de production de logements en France qui est l'œuvre de petits constructeurs de maisons. Mmh. Alors, il y en a certains qui ont fait de l'extension urbaine avec des pavillons qui ne sont pas forcément d'extrêmement bonne facture, mais c'est un savoir-faire qui est exceptionnel et qu'il faut maintenir.
Ouais, les maçons sont les premiers promoteur immobilier de France. En effet, on voit bien qu'il y a évidemment, il y a une crise du logement, il y a des besoins en logement. D'un autre côté, il y a ce besoin de diversifier les fonctions dans la ville. Les collectivités vous appellent souvent, Nicolas Barre, pour justement venir apporter dans ces tissus plutôt résidentiels ces fonctions productives. Comment ça se passe? Vous êtes très sollicité ou c'est plutôt vous qui essayez d'imposer ces bâtiments qui, comme vous le disiez, produisent aussi du passage, éventuellement des nuisances parce que c'est de la production et que c'est du concret?
Non, on n'a jamais fait de prospection. En fait, on a toujours été sollicité. À une époque, j'avais 10 demandes par mois. Donc ça s'est un peu calmé là avec la crise, mais effectivement c'est les collectivités ou les promoteurs qui nous appellent en disant parce qu'il y a ils réaménagent un quartier et ils se disent que dans ce quartier ça serait bien de mettre une programmation productive, artisanale ou autre, et donc ils cherchent un opérateur en fait quand ils cherchent ils en trouvent pas beaucoup, en tout cas qui font ce qu'on fait. Et qui ont réussi à le déployer dans plusieurs villes, parce qu'ils cherchent un programmateur qui est capable de monter quelque chose qui tient, et qui est un modèle éco et qui génère, qui peut durer et payer un loyer. En fait.
Parce que là, Mekissi est devenu une franchise, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes passé du premier lieu à Montreuil à cette idée de massifier, de multiplier ces projets?
Nous, on a une obsession, c'est les artisans qui veulent vivre de leur activité. C'est pas de créer des lieux, en fait. Et donc, il faut qu'on leur trouve des solutions. Et du coup, il y en a partout en France. Il y a du travail, il y a vraiment du boulot pour eux. Donc, du coup, il faut qu'on trouve une manière de massifier. Tout seul, c'est trop compliqué. On a une petite PME, même si on a des actionnaires, des financeurs. Et autre, c'est même compliqué de gérer un staff dans plein de villes. Donc du coup, en 2024, on a profité de l'année pour changer de modèle, de se préparer, d'être accompagné pour devenir franchiseur. Alors on est une structure de l'ESS, un Grésus, donc c'est une franchise.
L'ESS, l'économie sociale et solidaire.
Voilà, donc on va faire une franchise, je veux employer le terme parce que c'est vraiment le cas, mais avec des critères de l'ESS et ESUS. Donc en fait, on travaille avec une mère qui veut un mec ici. On définit avec lui et qui veut le porter politiquement. On définit des objectifs. Donc on signe une convention d'objectifs d'impact social, économique, d'emploi et autres pour sa ville. Il ou elle met à disposition un lieu.
Disposition, ça veut dire c'est forcément gratuit ou prix qui sont pas ceux du marché? Comment ça?
Voilà, donc c'est un projet d'impact et de relance d'une filière de production locale. Moi, je veux pas que la mairie se comporte comme un bailleur, c'est un partenaire. Donc en fait, une fois qu'on a ça, ensemble, on monte une structure, donc une coopérative d'intérêt collectif dans laquelle la mairie est impliquée et qui sera l'exploitant du site. Et qui sera le franchisé. Et le fait d'être en SIC, ça implique la mairie et les collectivités, mais ça implique aussi des acteurs locaux. À Tours, c'est une structure qui est montée avec le Fab Lab local, avec une association de design métamorphe qui monte du mobilier à base de déchets plastiques. Ecopia, qui est une association qui aide les entrepreneurs des industries créatives bénéficiaires des minima sociaux à vivre de leur activité. Voilà, on fait tout ça.
Et qu'est-ce qu'apporte la structure mère Make ici à tous ces acteurs locaux qui donc montent le projet?
Du coup, c'est la maison mère Make ici qui monte. Donc il y a un peu, je sais pas comme toi, mais il y a de l'ingénierie de projet pour monter, on pilote pour monter tout ça. Et une fois que c'est ouvert, du coup, on accompagne et la structure exploitante en coaching, en animation de réseau, en formation, en apport d'affaires, parce qu'on est aussi centre de formation, nous, donc on implante des formations. On se comporte, en fait, il y a un contrat, c'est assez cadré, la franchise. Il y a un contrat, on a des obligations pour que ça tienne, que ça soit pérenne pérenne dans le temps.
Et on a le sentiment, en vous écoutant tous les deux, que... Alors, je vais faire un rapprochement qui va vous sembler peut-être invraisemblable. On parlait de la nourriture préfabriquée ou de la nourriture qu'on fabrique soi-même. Je ne vais pas aller jusqu'à la gastronomie. Mais on a le sentiment, en vous écoutant, que le sur-mesure redevient possible. Alors, à quel prix ? C'est-à-dire, à qui on peut-on s'adresser ? Parce qu'aujourd'hui, donc je ne vais pas citer de nom de marque, mais nos entrées de ville sont remplies d'endroits dans lesquels on trouve quasiment tout fait, tout ce qui peut aménager notre logement, voire même le logement, puisqu'on peut avoir des maisons préfabriquées. Donc, comment vous voyez ça au regard de la capacité économique, en fait, des gens auxquels vous vous adressez ? Parce que pour la nourriture, donc on voit très bien, il y a eu la gastronomie, puis maintenant ça s'est vulgarisé et on a d'autres dispositifs. Et je dirais que presque le courant peut se nourrir convenablement, même si c'est pas... Il y a des moments où pendant le Covid, on a vu que c'était pas possible parce qu'il manquait les marchés alimentaires, par exemple. Mais en vous écoutant, ça ouvre une grande fenêtre de bouleversement, qui est un retour de l'histoire, mais qui est aussi peut-être une façon de donner le meilleur pour ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire l'endroit où on travaille et l'endroit où on habite. Lily, peut-être ?
Non, mais en fait, c'est une question qui est importante parce que nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est justement l'autopromotion qui permet de produire du logement abordable. En fait, les gens avec qui on travaille, c'est vraiment pas les gens les plus fortunés. Puisque en fait, c'est déjà la réalité. C'est-à-dire que les gens adaptent leur logement, se retrouvent eux-mêmes dans des situations à devoir bricoler avec leurs voisins, à s'investir pour voilà diviser un peu leur terrain et essayer de financer justement l'adaptation, par exemple, de leur maison familiale dans laquelle maintenant ils vivent seuls et avec leurs vieux jours. En fait, ils ont besoin d'un plain-pied et donc en fait, ils vont se retrouver à voilà vendre un bout de leur terrain pour essayer d'aménager ça. Et donc, en fait, les Français ont une certaine capacité financière, justement, juste simplement dans le terrain qu'ils possèdent. C'est pas des gens très riches, c'est pas des gens qui ont beaucoup de côté, mais en fait, parce qu'ils ont acheté il y a un certain temps, et ben ça a de la valeur. Et donc, c'est comment est-ce que cette valeur-là, on la redirige vers la production de logements et vers l'adaptation de leur propre logement pour eux. Et donc... Quand on pense à la promotion immobilière, on dit oui, le collectif, etc. On imagine tout de suite que ça va pouvoir adresser des populations voilà, moins fortunées. Mais en réalité, la promotion immobilière aujourd'hui, c'est des coûts de sortie post-guerre en Ukraine qui sont quasiment à 4000 euros du mètre carré. Mais les Français ont comme budget moyen pour créer s'acheter du logement qui est à 2005 du mètre carré. Donc ça, c'est déjà terminé. C'est-à-dire qu'en fait, la promotion n'est déjà plus un produit que peuvent se payer les Français.
Mais vous parvenez à tirer à ce point-là les prix qu'on arrive à des coûts de sortie à 2005 ?
Bah 2005, c'est le prix de la construction aujourd'hui, on va dire, en moyenne, hein, évidemment. Et donc, en fait, à partir du moment où on n'a pas le foncier à payer et que tout ce qui va, dire, parce qu'il va être, en gros, l'ingénierie d'accompagnement est, elle, financée et portée par la collectivité, dans ce cas, on retombe. Et si, en plus, le particulier possède déjà son foncier, sur là, quelque chose que les gens peuvent se payer. Et puis d'autant que nous, notre approche, elle n'est pas justement aussi, parce que Dominique, tu dis, par des grandes surfaces, ou tu les sous-entends, nous, on n'est pas dans le clé en main. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de vendre quelque chose qui va être avec des finitions parfaites, etc. Et je pense que d'ailleurs, les artisans, enfin Nicolas, tu le diras mieux que moi, mais le savent. C'est-à-dire qu'en fait, arriver avec un produit totalement fini, forcément impeccable, et on l'a beaucoup pensé du logement, on a pensé le logement comme un produit. Or, je pense que ça n'est pas vraiment la réalité déjà vécue, hein, quotidienne. Et effectivement, c'est pas ce qu'il faut promettre parce que après, les gens, ils attendent quelque chose qui est pas dans leurs moyens, en fait, et qui n'est pas forcément en plus qui répond à leurs besoins, quoi.
Nicolas, à qui s'adressent les artisans dont on parle? Est-ce que finalement, on va retourner vers une société où tout un chacun pourra faire appel à des artisans? Parce que souvent, dans les représentations, on a l'impression que c'est réservé à une certaine élite économique de pouvoir faire appel à des artisans et de ne pas aller s'acheter des meubles IKEA. Est-ce qu'il y a un modèle, justement, pour redémocratiser et déstandardiser un peu la production ?
Nous, on influence forcément nos artisans pour en vivre vers le sur-mesure et le B2B, on va dire ça comme ça, parce que c'est pour vraiment vivre de son activité, il faut aller vers là. Après, on a toujours à peu près un tiers d'artisans qui démarrent leur activité, un tiers qui sont dans leurs 4, 5, 6 ans, puis un tiers qui sont plus élevés. Et il y a aussi certains qui on voit arriver de plus en plus qui se spécialisent dans la reconfiguration, l'upcycling.
Réparation.
Ouais, réparation. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, c'est les deux mobiliers les plus achetés par les Français, c'est la cuisine On achète on s'installe, on veut une nouvelle cuisine, on la reconfigure tous les... avant, c'était tous les 30-40 ans, maintenant, je crois que c'est tous les 10-12 ans. Et la table, une table... là, il y a, chez nous, il y en a qui sortent, il y a tous les prix, en fait, vraiment. Et je prends un exemple, parce qu'on a fait une étude avec des promoteurs pour pouvoir proposer une offre de cuisine pour empêcher les acheteurs d'aller chez un cuisiniste, je ne vais pas citer de marque, mais des cuisinistes qui sont...
On va essayer, ce n'est pas facile.
Voilà, des cuisinistes qui sont dans les endroits que tu cites, là,
dans la périphérie, bien sûr.
Dans les entrées de ville.
Ce n'est pas plus cher. D'accord. On peut avoir la même cuisine fabriquée par un artisan, pas la même, mais une cuisine fabriquée de manière artisanale, avec des poignées sur mesure, la matière que vous avez choisie, pour le même prix qu'un cuisiniste.
Voire... Ça prend juste plus de temps, ce que disait Lily. Sans doute, mais ce n'est pas grave.
Oui, ça prend un peu plus de temps, mais après, il y a un système. Hein. Ouais. Après, on va dire que les artisans, pour une cuisine, ils ne fabriquent pas les caissons. Hein. On Bien les commande sûr. Chez un... comment dire, ils les assemblent.
Ouais, oui, c'est un assemblage.
Voilà, mais après, c'est la... Donc, en fait, les artisans, aujourd'hui, se sont adaptés et on peut... Alors, effectivement, on ne peut pas trouver une table à 100 euros de 3 mètres sur 1 mètre, hein, fabriquée par un artisan, ce n'est pas possible.
Bien sûr, mais donc, il y a une sorte d'hybridation, finalement, des modèles entre un modèle... industriel, préfabriqué, qui aussi a ses qualités écologiques d'ailleurs et a ses qualités d'usage, et le fait de pouvoir rajouter à ça une couche de sur-mesure et que les gens peut-être vont pouvoir soit faire eux-mêmes, soit s'approprier davantage, si je comprends bien.
Oui, en tout cas, comment dire, les cuisines que vous achetez, ou en tout cas les meubles que vous achetez chez les IKEA, Schmitt et autres, c'est très 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 cher pour ce que c'est.
Oui.
Et pour ce que ça coûte.
Exactement.
Ça ne vaut même pas un quart de ça.
Lily, vous...
Non, simplement pour dire qu'effectivement, le gros sujet, c'est la complémentarité, je pense. C'est en tout cas retrouver... Il y a des zones en France dans lesquelles on aura besoin de produire beaucoup de logements d'une autre manière. Et par contre, je pense qu'il faut donner place et retrouver la place de la production par les habitants.
On va marquer une deuxième pause musicale en écoutant Led Zeppelin, en partant un peu dans les airs, Stairway to Heaven, et on se retrouve juste après pour la dernière partie de Ainsi va la ville.
a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking.
De retour sur Cause commune pour la dernière partie de Ainsi va la ville, toujours avec donc Nicolas Barr et Lily Munson. Dominique, je te laisse introduire la dernière partie.
Ah, c'est le plus difficile. Donc, deux petites questions. Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire pour que les villes aillent mieux, et que voudriez-vous voir dans tous les programmes des futures élections municipales? Donc, je ne vais pas vous demander de répondre en 4 secondes. Peut-être Nicolas... Déjà, on a parlé du gaspillage immobilier, de la question de réutiliser des locaux. Vous avez expliqué que vous étiez déjà en lien avec des promoteurs et que vous pouviez être sollicité pour mettre en place des espaces makers dans des endroits de développement. Il faut arrêter de faire justement les endroits en dehors des villes pour que les villes aillent mieux. Il faut reconcentrer, il faut...
Je pense qu'il faut peut-être commencer par... Je ne sais pas si c'est une solution, mais... ça, j'ai jamais compris pourquoi les villes étaient, ou les quartiers étaient pensés par des personnes qui n'y habiteraient jamais. En fait, ça fait 12 ans que je suis là-dedans, j'ai jamais compris, ça continue en fait. Et que quand les promoteurs et autres veulent impliquer des personnes, ils impliquent des habitants, ils impliquent dans les groupes de travail, médiation, ils impliquent jamais les exploitants. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé, moi. Donc, nous, ce qu'on fait, les solutions qu'on fait, c'est quand on veut s'implanter dans un quartier, qu'on travaille avec une ville, on leur dit, nous, on est dans l'équipe de conception et on décide avec vous, en tout cas sur notre partie à nous, on décide du choix de l'archi, de la programmation, et on veut une programmation aussi qui évolue avec le temps. Et on veut, il y a les mètres carrés pour le mec ici de départ, mais on veut aussi des mètres carrés pour dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et qui vont être petit à petit investis pour de la programmation qui est impliquée par les savoir-faire qui sont dans le lieu, mais aussi qui sert à ceux qui sont dans le lieu. Voilà, une cantine de quartier, un centre de formation, une ressourcerie, une recyclerie.
Et le cadre réglementaire, il vous le permet aujourd'hui ou c'est compliqué dans vos expériences?
Non, il n'y a pas de problématique particulière.
C'est juste une volonté, un état d'esprit.
Excepté peut-être que je ne maîtrise pas bien, mais là on commence à avoir des quartiers, je ne sais plus comment ça s'appelle, ZFU ou autre, ZFU, où ça va être compliqué d'amener du transport de marchandises, de matières, de plus en plus qu'il y a dans les villes. Mais on trouve des solutions parce qu'on peut prendre des camions plus petits. Donc là, aujourd'hui, on peut le faire dans les villes, on peut le faire partout. Là.
À la condition qu'il y ait un espace pour en discuter, c'est ce que vous dites.
Oui, qu'il y ait un espace et après...
On se met tous autour de la table et qu'on travaille ensemble.
Oui, jusqu'à maintenant, on nous proposait des anciennes usines ou des anciens ateliers, maintenant on nous propose des anciens marchés alimentaires. C'est un des sujets du Grand Paris aujourd'hui. Il y a même, je crois, GPA qui a un programme là-dessus. C'est qu'est-ce qu'on fait des...
Grand Paris Aménagement.
Grand Paris Aménagement, oui. Des marchés alimentaires.
Ce qui veut bien dire qu'il y a un petit problème. Et nous, c'est parfait. Les marchés alimentaires ne peuvent plus délivrer de denrées alimentaires. Mais bon, c'est une autre discussion. Peut-être Lily, alors je pense que sur le pavillonnaire, c'est beaucoup plus compliqué. Et sur le logement, c'est un peu le roi de la norme, le logement.
Tout à fait. Alors nous, effectivement, Nicolas, j'ai adoré... ta formule sur peut-être des endroits qui sont pas conçus par les gens qui vont y vivre. Je pense que là, on est quand même au cœur du problème. C'est-à-dire que... et c'est pareil pour le logement. Très franchement, la plupart du temps, les politiques de logement sont conçues par des gens bien logés. Donc après, je reprends les mots d'Emmanuel Coste qui m'avait beaucoup ému, mais qui ressemble à ceux que vous venez de dire. Je pense qu'effectivement, on a eu trop tendance à penser ça avec une vision technique et pas dans la réalité en fait des territoires et de leurs problématiques qui sont très très différentes les unes des autres, enfin les uns des autres. Moi, tout d'abord, j'aurais besoin de maires courageux. Et je trouve qu'il y en a pas beaucoup en réalité. Alors je comprends.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire courageux?
Pour moi, c'est un maire qui, en fait, ne cède pas à ces enjeux électoralistes primaires. je comprends qu'il le fasse, donc je ne vais pas lui jeter la pierre non plus. Mais c'est un maire qui est capable de porter une vision pour son territoire en se posant ces questions-là de, en fait, où les gens habitent, où les gens travaillent, de quoi ils ont besoin, en fait, au quotidien, et qui ne fait pas des promesses en disant « Ah, on va ouvrir tel service », alors qu'en fait, il bloque une densification suffisante pour que ce service soit viable économiquement. Et donc, en fait, il promet des équipements, il promet des choses... Et ensuite, les gens sont extrêmement déçus parce qu'en réalité, on a sursubventionné, par exemple, un local, on a implanté la dite activité, mais aucun exploitant n'est capable, et on mentionnait tout à l'heure aussi avec Nicolas sur l'importance, en fait, de, d'avoir un certain chiffre d'affaires, enfin, juste de pouvoir survivre économiquement à certains endroits, et on ne peut pas le faire dans certains territoires. Et donc, en fait, on bloque le fait que ce territoire soit vivant, actif, et en même temps, on promet des services. C'est comme ça qu'on crée de la déception, c'est comme ça qu'on crée de la frustration, et que derrière, des gens se réfugient dans des situations, dans des opinions politiques dans lesquelles on blâme un peu tout le monde.
Mais moi, j'ai l'impression que le sujet, là, c'est de parvenir à créer, parce que si on dit aux élus, on est en campagne électorale, soyez courageux, etc., bon, on les envoie un peu au casse-pipe, comment est-ce qu'on peut faire pour recréer un récit positif autour de la densification, autour de la production en ville? Quels arguments on peut donner à des futurs candidats, candidates aux municipales pour qu'ils mettent dans leur programme le fait d'aller densifier des tissus où, ma foi, les gens peuvent dire « bah non, moi je suis très bien comme ça » ou qui disent « bah oui, dans ce quartier, on va mettre un lieu qui va de plusieurs milliers de mètres carrés, qui va rassembler plein d'artisans, qui vont peut-être avoir des camions, faire du bruit, etc. » Quel récit de société il peut y avoir derrière et comment leur donner les arguments pour que les élus s'emparent de ces questions?
Moi, me concernant, c'est l'emploi. En fait, un mec ici, ça crée 50 à 80 emplois, en fait. Et un emploi, j'appelle ça emploi productif, je n'ai pas trouvé l'autre terme, mais, et donc qui a disparu. Donc le premier, ça, les maires, ils ont tous compris que ça crée de l'emploi. Et le deuxième, c'est ça recrée une communauté de personnes qui ont des savoir-faire et qui peuvent aider des habitants à retrouver une voie. Parce qu'on voit qu'il y a toujours l'enjeu aujourd'hui des parents avec leur « qu'est-ce qu'on va devenir mon ado ?» Et que maintenant, comme les métiers d'art sont quand même un peu... les parents sont un peu moins inquiets si leur enfant va dans ces métiers-là. Et donc ces lieux-là, ça permet les parents peuvent voir assez facilement ce que vit un artisan d'art. Et aujourd'hui, un artisan d'art, c'est pas un vieux monsieur de 55 ans qui est au fond de son atelier tout crasseux, au fond d'une cour à paille. Non, c'est des jeunes qui ressemblent à tous les autres jeunes ou des moins jeunes, mais qui ont une vie normale.
Il y a toutes les catégories d'âge dans ce cas-là.
Toutes les catégories socio-professionnelles.
Beaucoup d'apprentis aussi.
Oui, beaucoup d'apprentis.
Et donc, on a l'impression de renouer avec la chaîne du vivant.
Voilà.
C'est quand je vous entends là, tous les deux.
Et le fait d'avoir implanté des centres de formation en plein cœur de nos lieux, ça amène tout un tas de personnes qui se forment, qui comprennent, qui découvrent.
Lily, comment donner aux candidats et candidates aux municipales l'envie de défendre la densification des tissus existants?
Moi, je pense que c'est un peu comme l'artisanat aussi, c'est-à-dire que c'est par la beauté. Je veux dire pourquoi, parce que je pense que les gens, ils ont été échaudés par la densité aussi, parce que effectivement, on a fait des choses très moches et que ça a déformé leur cadre de vie. Et puis voilà. Alors que, en réalité, on peut faire des choses magnifiques. Je vous parlais des villages de France, c'est sublime. Je veux dire, qui ne rêve pas de ça? Aujourd'hui, pareil, tout le monde, c'est même presque quasiment devenu un statut social. Moi, je vis dans de l'haussmannien. C'est un des tissus les plus denses au monde, l'haussmannien. Et en fait, c'est très désirable. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ornement, parce qu'il y a du savoir-faire, parce que, en fait, et je pense que de réussir à retrouver aussi, dans l'architecture, dans la composition urbaine, de la beauté, de l'attention aux détails. Ça coûte pas forcément plus cher d'ailleurs. Ça permet aussi de réengager sur des projets qui sont positifs. Et je pense que ça peut participer. Et puis après, c'est aussi reparler de tous les bénéfices de la densité. Enfin, je veux dire, c'est une infrastructure sociale, de solidarité. Quand on connaît ses voisins, quand on en a, en fait, tout d'un coup, ça nous permet d'échanger, de s'entraider. Moi qui ai grandi à Paris, franchement, ça a été quasiment un service socio-culturel, quoi, en fait, au quotidien.
Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? Vous vouliez prendre des notes?
Non, mais c'est vrai que c'était on rapproche souvent beauté et artisanat d'art. Mais moi, ce qui me motive le plus, on va dire, en dehors de... C'est quand les parents nous envoie des messages en disant voilà, notre enfant de 14 ans était perdu, parce qu'on a beaucoup de parents qui nous demandent de faire des, comment dire, des ateliers, des stages découvertes, et qui nous envoie un message en disant c'est bon, ça y est, il a trouvé sa voie. Alors sa voie, c'est pas forcément artisan d'art, mais comme il a fait avec ses mains, qui a découvert plusieurs métiers, à la fois artisanat, fabrication numérique et tout, il a retrouvé confiance, et il se dit, voilà, je vais dans cette voie. Et donc, du coup, ça permet, que ce soit ce que tu fais ou ce qu'on fait, bah d'éclairer, je sais pas comment dire autrement, là, vers une nouvelle voie qu'on voit peu dans les médias, et qui, en fait, est de se créer un avenir, en fait, une inspiration, s'inspirer, on va dire.
Ce que vous dites tous les deux, c'est que c'est l'humain qui est au cœur de la politique. Mmh. Or, aujourd'hui, on passe quand même beaucoup par des cadres réglementaires, des cadres législatifs, des services administratifs, donc toute une série de choses qui ont été mises en place. Le déjà-là, d'une certaine façon, il y a le déjà-là de nos espaces, mais il y a aussi le déjà-là de nos organisations qui sont parfois, je dirais, en opposition avec le fait qu'on peut redonner de la place à des gens qui ne sont pas des experts, mais qui sont ceux qui font le lien social. Et dans vos démarches, tous les deux, si l'humain ne fonctionne pas bien, le dispositif ne fonctionne pas du tout. Donc, est-ce que vous auriez, dans les quelques minutes qui nous restent, quelques conseils à donner aux élus sur une minute chacun, sur, pas une garantie, mais essayons.
Moi, effectivement, j'ai beaucoup d'idées de mesures. Moi, je pense qu'il faut redonner de l'incitatif fiscal aux maires bâtisseurs, c'est-à-dire qu'ils aient les moyens aussi d'accompagner la densification, parce que c'est aussi normal qu'ils bloquent de ce point de vue-là. Donc, ça veut dire vraiment subventionner création de logements neufs dans les zones tendues du pavillonnaire, avec évidemment des critères fermes, mais quand même une capacité vraiment. Puis, potentiellement aussi des points de TVA immobilière qui leur sont redirigés. Et puis, sur les réglementaires, je pense qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui d'avoir... peut-être une sorte d'audit national un peu critique de nos PLU, parce qu'on voit que la règle d'urbanisme a été usée, abusée pour, en fait, avec des superpositions pour, en fait, très franchement, et d'ailleurs les maires le disent eux-mêmes, interdire la plupart de la création de logements.
Juste faire des zones déréglementées.
Ou des zones totalement déréglementées, moi ça serait avec plaisir.
Bah, moi, je dirais que ça existe déjà, mais je vois dans certaines régions, départements, où il y a des, comment on appelle ça, des SEM, donc des structures parapubliques, je crois, ou publiques, oui. D'immobilières, qui peuvent investir, en fait, dans des bâtiments comme ça, et qui sont souvent, moi, les investisseurs des lieux qu'on reprend. Et du coup, il n'y en a pas partout.
On a les outils, voilà, on a les personnes.
On a les personnes, il y a des exemples, il y a déjà, donc que toutes les villes ou régions ou départements ont créé ces outils-là. Mmh. Et parce qu'il y a des exploitants, en tout cas qui ont les moyens de créer des structures qui paieront le loyer et qui leur permettront de développer sans que ce soit. C'est même pas du courage, c'est l'avenir.
Il faut libérer les bonnes énergies,
de l'essentiel.
Entre déréglementation et retour de l'investissement public, une partie de la réponse se situera sans doute entre les deux. Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Nicolas Barre. Merci à vous, Lily Munson, d'être venue nous parler de votre rapport à la ville.
Merci.
Merci Dominique. Merci également à Plateau Urbain et au Moment de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ainsi va la ville.